Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Mecs, le podcast qui laisse la parole à des mecs pour parler de leur masculinité. Je suis Fabrice Florent, j'ai longtemps co-animé ce podcast qui s'appelait auparavant The Boys Club avec Mimi et je le reprends aujourd'hui en solo. Parce qu'il est temps en 2020 de laisser les mecs parler. Alors vous allez me dire, mais on entend qu'eux, ils prennent tout l'espace de parole, etc. etc. Alors oui, c'est pas faux. Mais on entend trop rarement les mecs parler de leur rapport à la masculinité. C'est donc ce que je propose ici à mes invités. Pensez à vous abonner au podcast, je vous pose tous les liens dans les notes de cet épisode. Mettez-lui une bonne note sur Apple Podcast et tant que vous y êtes, partagez cet épisode ou ce podcast à des mecs autour de vous. Ils vous en remercieront tôt ou tard. Merci d'avance et bonne écoute. Une fois n'est pas coutume, je vous fais cette petite intro pour remettre un peu de contexte, puisque depuis que j'ai reçu Gaspard dans mon canapé il y a 10 jours, il a sorti une vidéo qui a fait un buzz énorme, plus de 2 millions de vues, à propos du mal-être étudiant, et a fini sur quelques plateaux télé depuis. Vous avez peut-être entendu sa voix ces derniers jours, en voici un très court extrait.
Cette histoire est inspirée d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'Heidi, d'Antonin, de Hugo, la réalité de Ryan, d'Emily, de Clara et de millions d'autres. Depuis presque un an, ma chambre est devenue mon bureau, mon lieu de repos, mon cinéma, mon amphi, ma BU, ma cafette, et il est vrai, un mini-bar quand je craque. Cette pièce, la seule de pièces, celle qui nous sert de repère dans un monde devenu fou, celle qu'on veut quitter pour de bon comme un naufragé pris au piège, nous les étudiants, nous les confinés, nous les Robinson modernes, notre avenir se ternit, nos rêves s'estompent, nos cours s'annulent, la lassitude et l'incertitude font désormais partie de notre quotidien. Mais le temps, les concours, les partiels, eux, ne s'arrêtent pas.
Voilà, c'était juste pour vous remettre un peu de contexte et aussi pour vous expliquer que si on ne discute pas spécifiquement de cette vidéo dans l'épisode, c'est tout simplement parce qu'elle n'était pas encore sortie. Merci d'avance et je vous laisse en compagnie. Merci d'avance pour votre écoute et je vous laisse en compagnie de Gaspard.
Donc tu disais, ouais, histoire de mec.
Ah oui. Non, je te disais que c'était pas nécessairement le podcast que j'avais le plus écouté.
Ouais.
Mais que dans un sens, histoire de daron, ça parle aussi évidemment énormément de masculinité, etc. D'ailleurs, c'est un des premiers trucs que je t'ai dit la première fois qu'on s'est rencontrés, que moi, ça m'avait beaucoup aidé en tant que jeune homme, genre début de jeune adulte, 18-20 ans, à me construire sur des valeurs saines de masculinité, tu vois, à re-questionner certains trucs, certains archétypes.
Mais par rapport à ton éducation ?
Ouais, c'est ça, par rapport à... tu vois, on parlait de Lille juste avant. D'où je suis fièrement, je sais pas,
originaire.
Et ouais, bah, tu vois, la droite un peu catho, etc. Bon, il y a vraiment là, on est dans l'archétype total de tu dois être masculin sous tel et tel code. Et du coup, en écoutant tes podcasts à Montréal, donc en plus de ça, dans une ville très open, etc., clairement, ça m'a. Enfin, ouais, c'est pas mal de trucs. Pas mal de trucs comme ça qui m'ont fait changer mes comportements.
Ok. Et pourquoi t'as pas écouté le Boys Club à l'époque ?
Bah tu vois, c'est marrant parce que du coup pour Mad et Lou typiquement, voilà, je te prends deux trucs, Mad et la BD Lou,
tu vois, l'œuvre de
Julien Niel, ouais. Niel pardon. Sinon c'est Xavier Niel, rien à voir.
Que j'ai interviewé, je vous mettrai le lien dans les notes, tu as écouté ? Ah oui, j'ai vu que tu avais écouté son épisode.
J'ai beaucoup aimé, j'ai
écouté l'histoire du succès.
Et tu vois,
génial. Hein.
Typiquement, c'était deux trucs. Alors j'espère que tu vas pas mal le prendre ou quoi. Mais c'est deux trucs que j'écoutais, enfin que je consultais, que je lisais, que j'écoutais parfois, que je regardais au collège ou au lycée, mais chez moi, dans mon lit.
Ouais.
Pas au CDI, tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'étais un jeune mec, et du coup, bah, c'était quand même... Il y avait ce truc où... bah, tu vois, typiquement, Mademoiselle, c'est dans le titre. Ouais, et Lou, ouais. C'est un prénom féminin aussi. Il y avait ce côté un peu aussi... pas girly, mais c'est ce qu'il disait dans ton podcast, d'ailleurs, Julien Niel, le côté très arrondi, un peu ouais, l'aspect du... Comment on dit j'allais dire idyllique, mais c'est pas ce mot-là. Tout ce qui touche au rêve, c'est...
Ah,
Tu vois, quoi, les formes très, très rondes, tout ça. Ça, c'est marrant, j'ai pas le...
Je vois exactement ce que tu veux dire. Je vois exactement comment c'est décrire l'univers de Julien Niel. Onirique.
Oh, merci. Onirique. Mais fondamentalement, une forme de sensibilité qui ne peut pas être appliquée chez... Enfin, en tout cas, dans mon schéma d'éducation que j'ai eu, ouais, en fonction de ma masculinité perso, quoi.
Tu sais que moi, je les ai vus, les mecs, au fur et à mesure, évoluer dans la façon dont ils communiquaient le fait qu'ils parlaient de Mademoiselle. Au départ, sur les réseaux sociaux, je les voyais parce que je suivais énormément tout ce qui se disait. En fait, je voyais des mecs qui partageaient en disant... D'abord, en citant jamais d'où ça venait, en disant « Tenez, il y a un article intéressant, là ». Et puis, au fur et à mesure, les mêmes mecs, donc forcément, en fait, ça devient des lecteurs, puisque c'est, ouais, pas des gens qui sont tombés par hasard sur le magazine, qui finissaient par dire « Ah, lire sur Mademoiselle, je sais pas si vous connaissez ». Et puis au fur et à mesure, à dire, putain, je lis Mademoiselle, ce magazine, c'est génial, vous devriez le lire, regardez cet article, c'est trop bien.
Bah ouais. Non, mais c'est clair.
Moi, c'est avec le temps, tu vois. Ouais. Au bout de, mais je, non seulement je t'en veux pas, mais en plus je comprends vraiment. Ouais. Et c'est dramatique que tu, en tant que mec, tu te dises, si je lis ça, ou si je montre que je lis ça, ça va être un peu la honte, quoi.
Et du coup, maintenant, il y a un effet inverse, qui ouais. est, je revendique fièrement que j'aime Lou, tu ouais. vois ce que je veux dire?
Bah, tu le fais, là.
Et ouais, non, mais voilà, j'adore. Et d'ailleurs, tiens, petite anecdote marrante, mais du coup, vraiment, on parle là de masculinité, mais typique. J'ai fêté mes 23 ans récemment, et j'avais 15 copains. Bon, c'est pas très Covid, mais vas-y, c'était dans une situation où c'était un peu relâchement, les chiffres étaient bons.
Ouais.
Non, faut se protéger ses arrières. Non, mais et alors, donc, j'ai 15 copains qui sont là, etc. Et ma meilleure pote m'offre le dernier tome de Lou, devant 15 personnes, dont des gens, j'étais pas nécessairement... Enfin, c'était mon anniv, mais j'arrive dans une nouvelle ville, etc. Donc, ouais. des gens que je connais depuis peu. Et bon, j'ai vite rangé, j'ai encore eu ce réflexe, je l'ai mis sous le coussin, tu vois. Du coup, c'est marrant, il y a des restes, quoi. C'est con, hein, mais ouais.
Surtout que maintenant, Lou, elle est adulte, tu vois. Donc
maintenant, elle est adulte, en plus.
Elle a des préoccupations de...
Non, mais c'est con, mais c'est juste parce que c'est incarné par... Le personnage principal est une femme. Du coup, alors que l'inverse, c'est pas vrai, tu vois. Aujourd'hui, comme c'est plutôt un standard, encore aujourd'hui, qu'un personnage de fiction soit un homme, bah, c'est mixte.
Ouais.
Alors que quand c'est une fille, c'est nécessairement obligé d'être girly. Et c'est, en plus de ça, c'est même pas l'intention de l'auteur.
Bien sûr, et quand il t'explique à quel point ça l'a saoulé, lui, de... Mmh. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode d'Histoire de succès, parce que même si vous connaissez pas Lou, la façon... Enfin, il raconte la façon dont il travaille, dont il crée ses histoires, c'est assez fascinant, en fait, d'entendre ouais. Julien parler de tout ça. Mais ouais, il était saoulé, lui, de... d'être obligé d'être catégorisé, sa BD dans le truc girly, quoi. Mais je lui enverrai ton épisode alors. Il dirait, tiens, t'as un lecteur marche. De longue date.
Ah, vraiment? Depuis très longtemps.
Mais ça t'a construit, Lou, t'as l'impression? Comment ça t'a construit en tant que mec?
Je vais te dire, j'ai l'impression, ça m'a pas construit en tant que mec, ça m'a construit en tant que cadeau. Et en fait, j'avais pas l'impression que les thématiques qu'elle traversait étaient nécessairement différentes des miennes, alors que j'étais un mec, tu vois. Ouais, non, je pouvais trouver une forme, je m'identifiais en fait beaucoup à certains trucs. En plus, elle a un côté très créatif, ce personnage que j'étais aussi, qui découpait des trucs dans les machins, qui faisait des romans, qui faisait des trucs très homemade. Enfin, et moi j'étais totalement ce genre d'ado aussi. Du coup, bah, qui faisait des films, des musiques, des trucs, des chansons pour les anniversaires, les événements. Alors voilà, moi je m'identifiais pas mal à ça.
Je suis très content de t'avoir, Gaspard. Tu sais, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois pour la première fois. Mais moi, je te suis depuis un petit moment. Enfin, je te racontais ça depuis que t'as, je pense, 15-16 ans, quoi. Tu vois, ouais. Je me disais, c'est marrant, ce mec-là. Et c'est drôle parce que, tu vois, même moi, en tant que mec, en tant que patron de Mademoiselle, à aucun moment, je me suis dit, bah, ça pourrait être cool d'avoir Gaspard dans Mademoiselle. Je pensais que t'en avais rien à foutre et que tu connaissais pas, quoi. Tu vois, donc, quand je t'ai contacté la première fois et que tu m'as dit, oh, je lis Mademoiselle depuis super longtemps, j'ai été touché, je me suis dit, ah merde, mais t'es un con, en fait, t'es vraiment passé à côté de quelque chose. Ça aurait pu être marrant de t'avoir. Et en fait, tu m'as expliqué un petit peu, tu m'as raconté un peu ton parcours et je me suis dit, mais mec, il faut à tout prix que tu viennes dans l'histoire de mec parce que je pense vraiment que ton histoire, elle est intéressante. Entre temps, je sais pas si t'écoutes maintenant Histoire de mec, mais j'ai eu ce gars qui s'appelle Valentin, qui vient du Nord et qui a une histoire totalement différente de la tienne. Là où toi, je pense que t'as une histoire typique du Nord, des familles, comme tu dis, de droite catholique,
ouais.
Qui sont très spécifiques à, bon, je pense déjà au Nord, hein, d'une manière générale.
Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que non, pour de vrai que. Je pense à Paris et à Lille, c'est vraiment des endroits où tu peux retrouver ces banlieues, mais ces riches banlieues un peu très très enfermées sur elles-mêmes.
Bah, où tous les gamins vont dans le fameux collège de Marc.
Ils se retrouvent au scout le week-end, voilà.
Donc c'est un délire. Mais
c'est un délire particulier.
Et que moi j'ai connu par l'intermédiaire, alors pas quand j'étais gamin parce que j'étais pas du tout là-dedans, mais ouais. Après quand tu vieillis et que tu commences à côtoyer des gens dont les gamins sont là-dedans, tu regardes tout ça de l'extérieur et tu fais « Ok, c'est intéressant avoir évolué ». Et en fait tu m'as parlé assez rapidement de ton parcours et je me suis dit « Ok mon gars, il faut que tu viennes ». Donc ça me fait trop plaisir pour resituer un petit peu qui tu es, en fait. Donc, tu t'appelles Gaspard.
C'est un bon début.
Je sais pas, mais ouais, mais en ouais. même temps, c'est intéressant. Tu t'as déjà donné ton âge, tu vois, en passant. Et en fait, tu crées du contenu depuis, sur Internet depuis que t'as, bah, justement, 15-16 ans, quoi.
Même, je dirais, même avant, en vérité, sous différents autres pseudos. Ah. Mais ouais, bah, écoute, depuis que j'ai 10 ans, je dirais 10-11 ans, j'avais des blogs, des trucs. Mais alors, forcément, ça faisait pas ça avait pas nécessairement trouvé son audience. Pour pas mal de... En fait, en général, j'ai remarqué ça chez les créateurs de contenu ou chez les créateurs en tout genre, créatrices aussi. On commence un peu à dire, bon, bah moi, je commence à faire ça, mais on dit pas nécessairement tout ce qui a bidé aussi avant. Et en fait, comme Internet... Moi, j'ai vraiment été un gamin qui a grandi avec Internet, qui a vu le PC familial arriver, etc. Mais j'avais 7 ans, tu vois. J'avais pas 15-16 ans comme aujourd'hui les grands frères ou certains pionniers peuvent raconter sur Internet. Et du coup, ouais, très tôt, moi, j'ai commencé à créer des blogs, des vidéos, je te dis, à chaque fois qu'il y avait un côté un peu créatif à faire, j'embarquais. Et assez naturellement, en fait, j'ai débarqué sur YouTube et en effet, j'avais 15-16 ans et j'ai commencé à montrer ma vie un peu. Alors, le début, c'était vraiment, j'étais aux États-Unis. Et du coup, il y avait cette particularité un peu, j'étais un peu le gamin expat à 15 ans. Du coup, il y avait quand même une vision... une perspective un peu différente qui a drivé une audience. Et puis après, j'ai montré un peu ma vie à Montréal, puis j'ai fait un peu de fiction, puis des trucs différents. Et c'est comme ça que progressivement, je suis arrivé sur le monde d'Internet. Et du coup, depuis 2021, donc depuis 2 semaines, je suis créateur à temps plein.
Waouh. Et c'est trop drôle parce que j'ai revu ta première vidéo qui est en partenariat avec...
Le web.
Voilà.
Ouais.
Et c'est marrant parce que donc mes filles sont actuellement dans un... lycée privé, ben un collège privé, c'était pas forcément mon objectif de foot mes filles dans un collège privé, mais il y a un moment donné où ces gens-là t'attirent aussi vers, et on a eu une réunion avec Web pour dire en fait si ça vous intéresse d'envoyer vos filles pendant une année machin, donc ça m'a fait marrer parce que je me suis dit ah bah potentiellement mes filles entre la seconde et la terminale peuvent aller partir pendant une année,
ouais.
Donc vivre un peu le même truc que toi.
Et c'était la meilleure expérience de ma vie.
Ah ouais? Vraiment.
Alors, pour le coup, tu citais le partenariat avec Web.
Comment t'as fait pour avoir un partenariat?
J'avais aucune audience, donc c'est ça qui est fou. J'avais vraiment 0 abonné sur cette chaîne. Non, mais je te dis, en fait, j'étais très fier de mettre en partenariat avec Web, mais c'est comme... moi, j'étais en partenariat avec YouTube à 11 ans. YouTube n'était pas au courant, mais j'étais quand même en partenariat avec eux sur les écrans titres, tu vois.
Parce que j'allais dire, est-ce que de ce fait-là, tes parents n'ont pas payé ton voyage?
Non, pas du tout.
Beau gosse, mec.
Non, pas du tout. Non, mais c'est, par contre, mes parents...
En partenariat avec mes parents.
Ouais, c'est ça, c'était plutôt ça. Mais mes parents n'ont pas payé exactement le même prix que ce que payent les gens d'habitude, pour une anecdote assez marrante, qui est, en fait, il n'y a pas eu de recherche de famille, parce que mes parents savaient où ils voulaient m'envoyer.
Ah, ok.
Et du coup, je suis allé dans la famille du correspondant de mon père quand il avait le même âge que moi. Et mon père a fait exactement ce même voyage initiatique que moi à 17 piges.
On va en reparler de ça.
Ouais.
Parce que je crois que
il
se passe un truc. Ok, donc je mettrai tous les liens pour les gens qui veulent te suivre parce que là, t'es parti en mode je suis créateur de contenu désormais. Si ça vous intéresse de suivre un peu le parcours de Gaspard, c'est cool. Bien sûr, tu vas passer à cette fameuse question, tu sais, la première question.
Ouais, je sais.
C'est quoi pour toi, Gaspard, être un mec?
Alors du coup, j'ai réfléchi un peu dans le métro avant de venir, parce que je me suis rappelé de cette question en venant. C'est vrai que je vais devoir parler de masculinité quand même, de quoi je vais parler, etc. Puis après, je me suis dit, allez, je vais pas trop me préparer, mais c'est vrai que cette question, vraisemblablement, les invités ont le temps de s'y préparer. Et du coup, en y réfléchissant, moi je me suis dit, bah en fait, être un mec, ça dépend pour qui, tu vois. Pour mon père, ça a certains codes. Pour mon grand-père, enfin, rip, mais pour mes grands-pères, c'était d'autres codes. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que ça veut plus dire nécessairement... en fait, je vais pas faire une différence personnellement.
Et pour tes potes?
Pour mes copains? Ça dépend quel copain, mais aujourd'hui, je me suis un petit peu détaché des copains qui avaient une image trop définie de ça. Pas parce que, j'accepte d'être pote avec des gens qui ont pas nécessairement les mêmes valeurs d'ouverture que moi, etc. Mais, en fait, assez naturellement, parce qu'il y a une forme de bienveillance aussi dans ce que je fais... Puis aussi, là actuellement, en fait, dans ce métier de youtubeur, créateur de contenu, tu te livres beaucoup. Et du coup, je parle beaucoup de ma sensibilité, de comment je vois les choses, etc. Et donc, en fait, avoir des potes qui disent « je comprends pas du tout ce que tu fais, pour moi, ça n'a aucune valeur ajoutée », ça m'est arrivé, hein. Même encore récemment, des copains, des potes, hein, pas des meilleurs copains, mais des potes voilà, qui me disent « bon, franchement, je trouve pas grand intérêt, je trouve que c'était déplacé de te livrer autant, et je fais rien de déplacé pour autant, pour quelqu'un qui est un petit peu ouvert à ce genre de sujet. »
Mais okay, ouais. Donc tu les mets un peu de côté, ceux-là, mais tu t'en éloignes.
Mais je pense que pour beaucoup, et pour beaucoup de copains du Nord, que j'ai encore gardé quelques-uns, ça veut dire la même chose que mon père, ça veut dire la même chose que nos grands-parents.
Ok, enfin, je t'ai coupé. Ça veut dire quoi pour ton père, être un vrai mec, pour toi?
Alors, j'ai du coup, petite déformation, mais j'étais assez d'accord avec ce que disait Panayotis dans un précédent podcast, qui était, ça veut dire... Enfin, en tout cas, pour mon père, ça veut littéralement dire subvenir aux besoins de sa famille, parce que c'est le schéma parental chez moi aussi, et de devoir... Enfin, c'est une forme de stabilité, c'est vrai. C'est une forme de stabilité, et c'est pour ça que moi, mon père m'a vraiment dit, avant de faire tes conneries sur Internet, tu vas d'abord faire une école de commerce, parce que ça va t'apporter une forme de stabilité, une forme de maturité, une forme de rapport à l'argent, d'équilibre, etc., qui était ce que lui recherchait, tu vois. Et ce que lui-même, d'ailleurs, je rentre peut-être un peu dans le détail de ma famille, mais mon père, aujourd'hui, fait une profession très classique, donc comptable, directeur financier, enfin, il est passé un peu comme ça, enfin, de gestion, etc. Et avant, il mixait beaucoup dans les soirées du Nord, jusqu'à ses 25 ans. Et c'était vraiment sa passion. C'était vraiment le David Guetta des soirées de Lambersart, Lille, Mouveau, Wascal pour les nordistes qui nous écoutent.
BMW représente.
BMW, exactement.
C'est les fameuses trois lettres de Bondu, Marc, Wascal qui exact. Sont un peu les trois banlieues ouais. Chicos de Lille.
À fond. Et du coup, voilà, il mixait, etc. Je crois qu'il aurait voulu en faire un truc, tu vois. Mais... il a été rattrapé par son père qui lui a dit hop, retourne là.
Donc il a un peu fait pareil avec toi.
Bah ouais, il y a quand même eu un peu de reproduction, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il a quand même accepté mon choix de faire ça, ce qui était impossible il y a 5 ans, 10 ans. Et je crois que, mais on en reparlera peut-être plus tard dans l'épisode, tu vois, mais je crois que c'est par rapport à certains trucs qui se sont passés dans ma famille. J'ai une maman qui a été hyper. Très malade, etc. Donc, qui a fait des longs séjours à l'hôpital. Et en fait, il a tellement été mis face au sens essentiel de la vie, tu vois, qu'il a fait un peu une crise de la cinquantaine un peu en avance, en se disant ah ouais, peut-être que je dois relâcher certains trucs. Il y a certains trucs qui n'ont aucun sens dans l'éducation que je suis en train d'inculquer à mes enfants. Et que, en fait, c'est cool s'ils kiffent. Voilà.
Ok. Tu disais que ça serait pas forcément pareil pour ton grand-père, c'est ça? Les codes.
Bah, mes grands-pères, j'imagine que c'est encore plus ancré dans la tradition. Après, je les ai mal connus, donc je saurais difficilement te dire. Mais il y a ce truc un peu. Ouais, il y a le patriarcat, quoi.
Ok.
Le père.
Patriarche.
Le patriarche dans ce système ouais. de patriarcat-là. Mais oui, exact. Le patriarche qui s'assoit au bout de la table. Ouais, c'est vraiment comme ça, hein, Medine et Samy. Ouais. Enfin, c'était comme ça.
Et ton père, il reproduit pas ce genre de code, par contre?
Mon père les a reproduits jusqu'à ses 40 ans. Mais alors, il s'est passé ce truc, du coup, que je m'apprête à raconter. Mais ouais. C'est un peu... En fait, c'est pas pour rendre le truc pathos ou quoi, mais vraiment, j'en ai jamais parlé parce que le format s'y prêtait pas. En podcast, moi, je fais de l'actu, donc rien à voir, ouais. Tu vois, le mec va pas commencer à raconter sa vie. Mais du coup, je suis content d'avoir l'occasion d'en parler aussi, parce que je sais que ça touche d'autres jeunes, tu vois. Ouais, du coup, moi, j'ai une maman qui a eu deux cancers. Donc, un premier un peu vénère, le deuxième carrément vénère. Mon père qui voyageait énormément, qui passait vraiment littéralement le schéma, genre 6 mois à l'étranger, 6 mois à la maison, c'était totalement ça. A dû juste être là en fait parce que ma mère n'était plus à la maison. À certains moments, elle faisait des séjours à l'hôpital.
T'avais quel âge ?
J'avais alors le premier cancer, j'étais aux États-Unis et d'ailleurs je l'ai appris au retour.
Ah, ils te l'ont pas dit.
Ouais, parce qu'ils voulaient me. Donc j'ai trouvé ça chouette parce que d'un autre côté, ils voulaient me préserver. En plus, ils voyaient. C'était le début sur YouTube. Donc ils ont voulu vraiment garder ce côté kiff, tu vois. J'en ai voulu sur le coup, mais aujourd'hui, sur un choix parental, je peux le comprendre. Et par contre, le deuxième, j'avais 18-19 ans. Donc en plus de ça, c'est horrible parce que tu vois, c'est vraiment. Donc il se passe 3-4 ans, et puis normalement, au bout de 5 ans, il y a une rémission. Voilà, ça repart. Et là, c'est un peu plus généralisé, etc. Donc compliqué. Et en gros, mon père a dû se mettre face à ce truc horrible qui est si ma femme disparaît, si ma mère, à moi, Gaspard, disparaît, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon père va réussir à nous éduquer, sachant que dans le schéma qu'il a vécu jusqu'ici, il ne s'est jamais occupé de notre éducation. Et un petit truc marrant, c'est à Noël, il ne nous faisait pas de cadeaux. C'était les cadeaux des parents. Et on l'embrassait, tu vois, comme signe de merci. Mais par contre, il ne savait pas ce qu'il y avait dans le paquet.
Ah, il ne savait même pas.
Non, enfin, c'était peut-être discuté rapidement, tu vois, mais il ne savait pas. Et depuis cette maladie-là, le vrai vecteur de changement, ça a été mon père nous fait des cadeaux, ses propres cadeaux à Noël. Donc, il y a les cadeaux de papa, les cadeaux de maman. Et mes parents ne sont pas séparés du tout, hein, ils vivent ensemble, etc. Mais il y a ce côté, en fait... Alors, les premières années, c'était compliqué parce que il lui a offert un truc à ma sœur qui avait 16 ans en pleine crise d'ado. Il lui a offert un jouet de 12 ans, tu vois. Donc, complètement à côté de la plaque. Mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Ça va pas du tout. Mais il y a eu une marge de progression.
Mmh. Ok. Et c'est intéressant que tu m'évoques la maladie. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, t'es plutôt en train de me parler de masculinité à travers ton père plutôt qu'à travers toi. Tu vois, et tu me racontes à quel point la maladie de ta mère, qui a dû toi t'impacter, j'imagine, en tant que jeune mec, quoi, que fils. Mais tu me parles plutôt de ton daron.
Ouais, c'est vrai.
Ça fait 10 minutes que tu me parles de ton daron.
C'est vrai, je suis trompé de l'histoire 2, en fait. Mais complètement à côté de la
plaie. Non, parce que je pense aussi que forcément, le comportement de ton père a pu agir sur ta vision à toi de la masculinité. Mais... Je perçois en toi une forme, et je crois que c'est inconscient, tu vois, mais d'esquive aussi, tu vois,
de pudeur un peu.
De parler de toi. Et tu vois, tu m'as parlé de ce que c'est qu'être... On va revenir après sur la maladie de ta mère, etc., parce que je pense que c'est important. Mais par exemple, tu m'as parlé de ce que c'est qu'être un vrai mec vis-à-vis des yeux de ton père ou de ton grand-père. Et en fait, t'as enchaîné sur la maladie de ta mère. J'aurais adoré t'entendre toi. Sur, en fait, qu'est-ce que c'est pour toi être un mec aujourd'hui, pour toi, Gaspard, 23 piges, quoi?
Bah, en fait, c'est bizarre, hein, mais j'ai vraiment cette vision-là de génération où je pourrais exactement te dire ce que c'est pour mon père. Je sais exactement, moi, ce que je vais essayer d'inculquer si j'ai un garçon. Qu'est-ce que c'est pour toi être un mec? Mais par contre, moi, personnellement, c'est des questions que je me pose pas tant. J'ai un sentiment de... En fait, je fais ce qui me plaît, tu vois. Et je le rationalise très peu. J'ai cette volonté, mais tant dans mon métier que... Enfin, ouais, c'est dur de... Enfin, j'ai un peu bugué en le disant, mais oui, c'est mon job aujourd'hui. tant dans mon job que dans mes rapports à mes potes, etc. J'essaye de pas trop le rationaliser, tu vois.
Mais tu vois, d'un autre côté, quand tu loues... Enfin, quand ta pote, elle t'offre loup au truc, tu le fous dans un coin, même encore aujourd'hui, alors que t'es adulte, quoi, tu vois.
Parce que, tu vois, mais je suis comme... Enfin... Je vais militer à fond pour mon pote qui va faire son coming out et faire genre « ça vous dérange ?» Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et pour autant, genre, il y a des... Enfin, même si... Enfin, moi, je serais incapable. Enfin, toute la question LGBT, etc., moi, je me suis presque pas autorisé à me la poser tant j'étais dans une dimension, tu vois, de... Ben, un cadre tellement fermé, tu vois. Qui m'autorisait pas vraiment à me la poser. Alors je vais me battre aujourd'hui pour que certaines personnes se posent ce genre de questions, mais fondamentalement, dans ma personnalité, dans certains comportements que j'ai encore aujourd'hui, je me rends compte que c'est presque... Hein, alors j'essaie d'agir sur certains trucs, tu vois, mais c'est presque trop tard pour moi. Typiquement, un exemple...
Ah ouais. Ok.
Typiquement, au niveau de mon comportement, je te dirais, je me bats plus, mais je me suis battu énormément fut un temps. Mais vraiment, j'étais insortable. Dès que j'allais en boîte de nuit ou en soirée, il y avait un mec qui me disait un truc, je me battais, alors que j'étais le petit garçon le plus calme du monde. Mais à un moment donné dans ma vie, il y a eu un peu des merdes au niveau du harcèlement scolaire, etc.
On va en parler.
Ouais, on peut en parler. Mais du coup, et en fait, la première réaction de ma mère, c'était de me dire, t'es une nouille, tu sais pas, enfin, tu sais pas te défendre, etc. Et en fait, c'était plus sur le côté, enfin, défends-toi, merde. Et du coup, en fait, j'ai tellement appris à me démerder un peu, pas seul, mais un peu quand même dans cette cour de récré avec ces problèmes-là, etc., que j'ai continué à reproduire ce schéma-là, en plus de ça, dans un autre coin de la planète, parce que se battre, je peux te garantir, femme, se battre en boîte à Lille et se battre en boîte à Montréal, rien à voir. Pourquoi ? C'est super chelou comme phrase, mais je te jure, rien à voir. Le regard des
benchmark.
Gens. Le regard des gens, rien à voir. Tu te bats en boîte, en sortie de boîte à Lille, les mecs sont en mode, ah, les garçons, boys will be boys. Tu te bats en boîte à Montréal, c'est qui ce tocard qui ne sait pas gérer ses émotions. Et c'est tellement différent. J'ai des copains qui font leurs études à Bordeaux et c'est la même histoire. Les mecs qui se battent en boîte à Bordeaux, pareil, boys will be boys, c'était un peu le côté rugbyman du sud-ouest.
Ouais, c'est ça. J'allais te dire vraiment, il y a le cliché du mec du sud-ouest, quoi.
Et alors, oh putain, je te pas raconte. Là, je m'apprête à raconter un truc, mais tu verras si tu gardes.
Je vais tout garder.
Je me suis battu. Je me suis battu il y a peut-être 2 ans en boîte avec un Belge. Parce que vraiment, alors là, pour le coup, vraiment un énorme charron en boîte, non-respect des filles, etc. Je suis allé lui parler, le mec l'avait pas mal pris, on se pousse, machin. Bref, on se bat. Je l'ai recroisé en boîte une semaine après, on s'est offert des coups et on a discuté. Parce qu'on avait ce rapport décomplexé un peu à ce genre de violence-là, qui est pas sain du tout, hein. C'est pas sain du tout. Je suis très loin de l'encourager. Mais qui était différent parce qu'on avait grandi dans le côté un peu voilà scout machin ou quoi genre des merdes yourself qui est en soi toxique hein, qui peut être toxique pour beaucoup de gens et qui même pour moi était hyper toxique mais bon je sais pas tu vois le rapport à la violence était hyper
il y a tellement de choses que tu dis
ouais je suis désolé
non mais en fait c'est pas ça c'est qu'en fait alors concernant le harcèlement scolaire qui n'est pas pris en compte par les parents been there done that j'ai envie de dire et la preuve en fait j'ai balancé il y a peu de temps à mes parents que en fait ils m'avaient pas aidé et que j'étais allé leur demander de l'aide et qu'ils m'avaient dit défends-toi enfin en gros défends-toi ah, merde ils étaient 4 contre moi quoi tu vois ou c'est chaud et en fait ma mère me l'a ressorti à Noël en disant mais c'est vrai cette histoire de ah ouais en fait je suis pas en train de te dire ça juste pour te foutre dans la sauce c'est juste c'était chiant en fait et c'est pas grave je comprends pourquoi vous m'avez pas aidé à l'époque c'était pas un sujet et tout mais ouais vous m'avez pas aidé en fait c'était chiant. Bon, compliqué. Mais, et en fait, donc vraiment, là, j'ai vu qu'il y avait j'en profite pour placer un petit truc d'actu, mais j'ai vu qu'il y a une gamine qui s'est suicidée de 11 ans, là, il y a l'année passée, suite à un harcèlement scolaire, puis après en ligne, qui avait été en plus encouragé par la prof, hein, vraiment une histoire hyper glauque. Et donc là, bien sûr, la prof a été mise en examen, empêchée de pouvoir exercer. Et en fait, il y a des gamins qui ont été de 11 ans qui ont été mis en examen, enfin qui avaient 11 ans à l'époque, qui ont été mis en examen aussi. Et en fait, alors grosse question philosophique, tu vois, sur le fait de foutre en examen des gamins aussi jeunes, etc. Mais en fait, moi, je suis content que enfin la société se. Enfin, pour moi, le truc, c'est juste de se dire. C'est cool que la société décide de prendre le sujet à ce point-là à bras-le-corps, qui mettent en examen des gamins. Alors, ça veut dire que c'est pas la bonne réponse, je pense, hein, parce que ça ne sert à rien. Sans doute, il va falloir mettre en place un truc d'instruction, enfin, tu vois, un truc institutionnel où, bah, il va falloir aider les gens qui sont au contact d'enfants à se former sur le harcèlement scolaire, etc. Mais je comprends tellement ça. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire, ça a forcément créé de la colère chez toi. Ouais. Parce que moi, tu vois, je me suis pas battu, par exemple. C'est pas un truc que j'ai fini par faire. Juste, j'ai grandi. J'ai eu ce truc où, d'un coup d'un seul, tu grandis en sortant de la troisième. Et en fait, de base, par le fait que t'es grandi, d'un coup d'un seul, les gens t'embrouillent moins. Mais j'avais pas envie d'aller me châtaigner, quoi. Tu vois, ça m'intéressait pas.
Bah, moi, je te dirais, c'était vraiment... ça a duré 4 ans, de mon côté. Et la dernière année de mon collège, donc en troisième, je me retrouve dans la même classe que ce mec-là. Et je me dis, putain, je vais finir par être son souffre-douleur, le souffre-douleur de toute la classe, ça va être un enfer. Donc ça a duré 21 jours, la rentrée était le 1er septembre. Et le 21 septembre, le mec va trop loin. Déjà, il insulte ma mère, tout le monde l'entend en cours, même la prof. Donc, truc vénère, la prof a peur du gamin. Enfin, le gamin avait redoublé deux fois, mais quand même, tu vois, il y a cette
histoire. Il avait 19 ans.
Il avait vraiment 19 ans en troisième. Mais, et alors, je me rends compte, en fait, à ce moment-là, que je n'agis pas. Et chez moi, ça boue. Et je m'étais jamais battu avant, tu vois. Et ça boue. Et à un moment, je fais OK. En fait, la bonne réponse, et c'était de la merde, mais la bonne réponse, c'est lui foutre une châtaigne pour me faire respecter. Donc, le mec me pousse dans les couloirs, etc. Et moi, je réponds pour la première fois. Ça fait 4 ans que j'ai jamais répondu, je réponds. Je le pousse et le mec perd un peu l'équilibre, etc. Ensuite, je cours parce que je suis un lâche. Je cours jusque ma salle de SVT.
Mais t'es pas un lâche, en fait. Ouais. Je pense que si on t'agresse dans la rue, il faut juste déséquilibrer le gars et se barrer. Ça sert à rien de se taper, quoi.
Voilà. Et alors là, on arrive devant le truc. Là, il m'embrouille devant tout le monde. Il y a la prof qui arrive. Et là, c'est une autre prof et une jeune, tu vois. Et on sent que... Et l'autre, c'était une vieille. Et tu sens vraiment la différence de génération. La meuf, elle voit le truc. Elle fait « Oh, qu'est-ce qui se passe, machin ?» Bon, nom du mec. « Qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas ?» etc. Elle l'embrouille. « Donne-moi ton carnet de correspondance. » Et là, le mec me fout une mandale. Ça, je suis sonné, je tombe par terre, etc. Il est convoqué chez le CPE. Et puis, en fait, il revient en classe 10 minutes après. Et là, il dit à tout le monde dans la classe, j'ai 3 copains, etc. En plus, c'était un peu les caïds, tu vois, qui venaient en scout et tout. Ouais. J'ai 3 copains et tout. On va le niquer, on va le dégommer, etc., etc.
Tranquillement, devant tout le monde.
Devant tout le monde. Tout le monde est en mode genre, tu sais, les mecs sont... Tout le monde était con. Et même aujourd'hui, j'ai plein de potes qui sont dans cette classe, qui viennent me voir et qui me disent... j'étais vraiment con, tu vois. Et on était vraiment débiles. Et j'ai des copains, et ça me fait trop plaisir, en fait. J'ai plein de copains qui me parlent de ça et qui me disent, je suis désolé, je me rends compte qu'on était cruels entre nous. Moi aussi, en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'en ai souffert et que j'ai des trucs qui sont pas réglés de cette époque-là. Et bref, du coup, le soir, je reste dans la classe, je m'effondre. La prof, qui est la jeune prof, prend conscience du truc et, en gros, me raccompagne. Et ma mère m'attendait genre 800 mètres plus loin. La meuf, la prof en question, fait le trajet avec moi jusqu'à la voiture pour être sûre qu'il m'arrive rien. Elle va voir ma mère, elle lui dit, il faut qu'on porte plainte, etc. Donc, on va porter plainte. Et le mec se fait pas virer. Je te raconte ça parce que tu vas voir, il y a pas mal d'aspects qui touchent à ça. Le mec se fait pas virer d'abord. Mon père est en voyage en Inde ou au Bangladesh, j'en sais rien à ce moment-là. Mais enfin, voilà, océan Indien. Il appelle, il prend le truc. Et ma mère me raconte l'appel après parce qu'il lui a reproduit le truc. Et mon père, qui n'a jamais agi sur mon harcèlement, jamais de la vie, il appelle le directeur d'institution. Il lui fait, voilà ce qui va se passer, mais genre un peu genre à la Tekken, tu vois. Mais menace. Donc du coup, pas la bonne méthode, a priori non plus, tu vois. Pas du tout la bonne méthode. Pas le truc de complaisance et tout, mais au moins, il se laisse pas faire. Il insulte de tous les noms le directeur.
Mais surtout, il te défend.
Mais il me défend. Pour la première fois. Et je ne sais pas ce qui a été dit, mais je crois qu'il y avait un peu menace, genre je fais un scandale dans la presse, je retire mes 3 enfants. Mon père avait un peu de thunes à l'époque, je crois qu'il finançait certains trucs, il fait voilà, sinon je bloque tout. Le gamin se fait dégager, finalement. Et ensuite, je te passe 4 ans après, ensuite je rentre en prépa, je sais, et même histoire que l'article que tu viens de citer, dans le bahut d'en face, littéralement genre à 2 villes près, une gamine se suicide à cause du harcèlement. Je publie, et à l'époque, j'ai 70 000 abos sur ma page Facebook. Je fais une lettre ouverte en dénonçant, et là, c'est genre balance ton harceleur, genre. Et je cite publiquement tout le monde. Le nom du mec, le nom du directeur de l'époque, et le nom des profs qui étaient inactifs par rapport à ça. Donc au total, ça fait 4 noms cités. Il y a un article dans La Voix du Nord, qui est le journal local après, qui est encore trouvable, etc. Et c'est Gaspard G. balance sur son ancien collège, le titre. La journaliste m'interroge par rapport à ça. Donc je livre ma version des faits, etc. Mais pas beaucoup plus que le truc que j'ai mis. Et la réaction, c'est de la journaliste qui était complètement abrutie, c'est de dire, bon, bah, ça c'est une side of the story, tu vois. On va demander au directeur, au nouveau directeur, qui n'est même pas le directeur de l'époque. Et le nouveau directeur nie complètement. Au lieu d'être dans l'acceptation en mode « on va faire ça pour mettre des nouvelles choses en place, tu vois, pour lutter contre le harcèlement », le mec est dans le il nie tout. Il dit ça n'est jamais arrivé, etc. J'ai aucune note dans mes dossiers, tout ça. Pour la préservation du nom et de la notoriété de son établissement, qui était un bon bahut français. Et le truc le plus horrible qui s'est passé après, c'est que l'article a été repartagé. Et j'ai eu peut-être 200 partages d'élèves d'institutions qui disent ça n'est jamais arrivé, etc. Et alors, les gens qui ont partagé ce truc-là ne sont pas les harcelés et ne sont pas les harceleurs non plus. Ce sont la masse. Les harcelés m'ont dit, tu as raison, etc. Enfin, c'est bien arrivé, c'est honteux, merci d'avoir eu les couilles de le faire. Et les harceleurs, il y a eu 3 mecs qui étaient vraiment les caïds du bahut, qui 4 ans après se sont dit, ouais, j'ai déconné, et qui se sont excusés. J'ai leur message d'excuse, etc. J'ai pleuré. Je me suis effondré quand j'ai vu ça. Mais surtout, ça vient énormément pour moi conforter cette thèse qui est, il n'y a pas de harcelés, il n'y a pas de harceleurs. Il y a des gens qui cautionnent. Et les gens qui cautionnent et qui voient dans leurs yeux, même d'enfants, même d'ados, bah, quelque part font partie du problème parce que il y a une forme d'acceptation et de banalisation de tout ça.
Bien sûr. C'est cool que la... Bah, merci de partager ça.
Ouais.
Et c'est cool que la parole se libère, l'air de rien, tu vois, par rapport à... Bah, déjà, j'imagine... Imagine le Gaspard au collège, tu vois, qui t'écoute. Aujourd'hui. Tu vois, rien que d'entendre ce truc-là, déjà, c'est une lueur d'espoir, quoi. J'imagine que t'avais pas ça, à l'époque.
Non, il y avait personne qui en parlait trop, tu vois. Mais après, c'est des... C'est pas pour faire l'apologie du... Pardon, il manque des syllabes. C'est pas pour faire l'apologie du podcast, tu vois. Mais c'est ce genre de médias qui permettent d'aller un peu dans la profondeur de l'histoire des gens. C'est pour ça que j'aime ce média, tu vois. Et c'est vraiment en écoutant à la fois tes podcasts, à la fois aussi un peu le Footcast, parce qu'ils accueillent aussi des anciens nerds, quelque part, qui parlent de leur histoire et tout. Et moi, ça m'a libéré, ce genre de truc.
Mais passons à la phase violence, si tu veux bien. Parce qu'en fait, une fois que t'as sorti tout ça, après, en fait, pour toi, l'une des raisons de... Enfin, t'avais de la colère en toi.
Ouais, à fond.
Et elle te venait de ce harcèlement ou est-ce que la maladie de ta mère, elle vient jouer là-dedans,
ouais,
aussi?
Ouais, ça vient de pas mal de trucs, je te dis. Mais c'est... Ouais, en vrai, c'est... les gens vraiment hyper... Les gens qui n'ont pas eu trop de problèmes dans leur vie, en général, ils sont... C'est rare de trouver quelqu'un qui a vraiment eu des parents hyper équilibrés, des parents aimants, etc., qui est en mode genre, putain, je suis révolté. Tu vois ce que je veux dire? En général, c'est des gens qui ont eu différents problèmes. Moi, il y a eu un peu de ça, et il y a eu aussi... la maladie de ma mère. Je dirais que c'est mes parents et le harcèlement. Enfin, c'est un peu ça qui m'a rendu un peu le mec vénère que j'étais. Mais encore aujourd'hui, j'ai de la colère, tu vois, mais j'essaye de vraiment la transformer. En fait, pour beaucoup de copains ou de connaissances, j'étais un mec impulsif, tu vois. Et genre, le mot, c'était lui, il est impulsif. Mais alors, du coup, des fois, il y avait des pulsions créatives qui sont hyper bénéfiques, qui m'ont fait faire des trucs trop cool sur Internet. Il y a eu des pulsions de bonheur, où vraiment j'étais un peu le mec lourd en soirée, après une pinte, qui était en mode genre, oh les gars, je vous aime, etc. Genre, qui voulait danser avec tout le monde. Les pulsions de tristesse, voilà. Mais très généralement, ces pulsions-là, elles se transformaient nécessairement en pulsions d'énervement. Et aujourd'hui, quand je suis vénère, et je le fais pas depuis longtemps, hein, je dis ça fait 12 mois ou peut-être 2 ans, j'essaye de me dire comment je peux transformer cette énergie véhémente, tu vois, en quelque chose de très positif.
Ça te vient d'où, cette colère?
Je pense que c'est de l'indifférence des gens, même si on était des gamins, tu vois, mais l'indifférence des gens et l'acceptation. Aujourd'hui, tu vois, j'ai remarqué ça, je te donne des trucs, putain.
Je te fais parler, hein, désolé.
À partir du moment où je me sens humilié, et c'est le mot, tu vois, à partir du moment où je ressens de l'humiliation, encore aujourd'hui, ça provoque nécessairement quelque chose d'hyper dark en moi, genre une poussée en puissance. Ma meuf m'appelle Stitch, c'est-à-dire que vraiment, genre, je suis un tendre dans la vie, mais à certains moments, genre, il suffit d'un truc et vraiment, je peux vriller plus aujourd'hui, mais enfin, si, encore aujourd'hui, mais vraiment à de moindres mesures, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus de l'agacement, etc. Mais fut un temps, ouais, c'était en plus de ça, quand j'avais bu ou fumé ou peu importe, c'était vraiment de perdre de contrôle et j'étais déchaîné, quoi.
Comment t'as fait pour apprendre à maîtriser ça? T'as vu un psy ou une psy?
J'ai vu 5 psys dans ma vie, donc c'est beaucoup quand même.
J'en ai usé.
Des psys québécois, des psys français, des psys cathos du Bahut. Et alors chacun avait des conseils différents, tu vois. Le psy catho, c'était il faut qu'il fasse du golf. Donc j'étais en 5e et mes parents entendent ça et ils font bon bah d'accord, on va l'inscrire à un cours de golf. Parce qu'en gros, le golf, c'était un sport de calme, mais à la fois, à un moment, il y avait un petit coup de puissance, tu vois.
Ouais. C'est marrant.
Comme... Du coup, j'ai fait du golf 2 ans, j'étais éclaté.
Tellement un sport de droite, le golf.
Vraiment.
C'est trop marrant.
Et puis après,
il faudrait qu'il se balade en jet privé, d'accord? Voilà.
C'est okay, ça calmera ses pulsions.
On va lui acheter un jet.
Tellement chelou. Ouais, mais non, sinon, un peu de méditation aussi. C'est vraiment, c'est génial. Mais j'en fais pas assez, mais dès que aujourd'hui j'ai vraiment pulsion de colère, etc., petite méditation, 10 à 20 minutes, à l'air frais normalement, c'est encore mieux.
Comment t'as appris à la reconnaître, la colère qui monte?
Alors, déjà, c'est physique. J'ai un vieux copain qui me connaît depuis toujours, tu vois. Vraiment depuis qu'on est gosse. Et du coup, il m'a vu en tant que gamin calme, il m'a vu en tant que gamin harcelé, il m'a vu en tant que jeune adulte épanoui. Ça reste que, physiquement, mon visage se change. Mes paupières deviennent plus... ouais. Prennent plus de place sur mes yeux, et ma bouche se tord. Alors, c'est super marrant. Mais vraiment, c'est physique. À un moment, tu vois, je sais pas pourquoi, je peux passer en dark comme ça. Mais aussi parce que, en fait, c'est un moment de contrôle où je me dis... la colère, la vraie colère, je la ressens parce que je me dis... Je sais que ça va me foutre dans une merde totale de faire ce geste. Mais ça va être hyper... je vais libérer une pulsion et du coup, ça va me permettre d'être mieux, tu vois. Mais c'est super dur. C'est le défi de ma vie. Et les gens voient pas trop, en plus. Enfin, voient pas du tout, en fait, cette partie-là. Quand tu regardes mes vidéos, je suis plutôt... je vous représente pas trop ça, tu vois. Mais je pense que ça arrive dans n'importe quelle classe de société, à n'importe quelle personne.
Bien sûr.
Que ce soit un mec, une meuf, y a pas de stéréotype, tu vois.
Ouais, après, je pense que c'est... d'autant plus simple pour toi de rentrer dans les clichés de genre, du genre je vais aller me tabasser, qu'en fait c'est un truc qu'on attend de toi, et que, en tant que mec en tout cas, tu vois, et que c'est le modèle que t'as eu, quoi.
Ouais, presque il y a une dimension de jeu, tu vois, pour les parents quand ils voient ça. Ils font tu t'es encore battu, sacré Ryan.
Ce fameux boys will be boys. Ouais.
D'ailleurs, c'est pas Ryan, c'est genre Gustave ou, ou Lancelot, que sais-je.
Lancelot, putain. Ok. Écoute, merci beaucoup de te livrer là-dessus. Ouais. C'est très intéressant. Il y a autre chose que tu m'as raconté aussi, c'est que j'ai un peu la sensation que ton voyage aux US, et notamment à San Francisco, c'est
exact,
ça,
ouais.
Si je déconne pas, a profondément changé. Et moi, quand tu m'as raconté ça, je me suis dit, ok, vas-y, viens raconter ton okay. histoire.
J'ai peur, je sais pas ce que c'est, je sais pas de quoi tu vas me parler.
Mais si, parce qu'en fait, tu m'as dit que c'était un déracinement total, ce voyage. Et j'avais un peu la sensation, quand tu me l'as raconté, que ça t'avait, alors certes, complètement changé ta vision du monde, etc. Parce que forcément, en fait, tu vas dans un autre pays. Mais surtout, tu t'es retrouvé, si je me trompe pas, chez un couple gay, c'est ça,
ouais.
À
alors,
San Francisco.
En gros, il y a eu deux parties de mon voyage, on va dire. Je fais un premier séjour test d'un mois, et ensuite j'ai renchéri sur 11 mois. Donc le premier séjour d'un mois, mais du coup c'était, tu sais, le premier mois c'est presque le plus important en fait, et peut-être celui qui dure aussi le plus longtemps pour quand t'es un gamin qui voit pas sa famille. J'étais dans un couple gay, Mike et Andy, qui étaient respectivement illustrateurs et musiciens. Donc, trop cool. Enfin, génial. Aujourd'hui, je pense que rien que ce mois-là, ça m'a donné tellement sur mon ouverture, mes goûts musicaux, mes trucs. Enfin, ils m'ont fait découvrir autant du vieux cinéma que ce film d'animation Yellow Submarine des Beatles qui retrace le truc. Andy m'a appris à jouer du ukulélé, qui est pas l'instrument le plus viril de la terre, tu vois, mais qui a été, enfin, ça a été un déclencheur de plein de trucs en fait, et ça a remis vachement en cause mes stéréotypes sur le bonheur. ils étaient infiniment plus heureux que mes parents. Et pour autant, ils étaient homo. Et alors, tu vois, encore aujourd'hui, dans mes réunions de famille, ça peut paraître dingue pour peut-être certaines personnes. Aujourd'hui, j'ai un cousin qui est homo, tu vois. Probablement plus que un, mais de déclarer un seul, pour le moment. Et qui me dit... dans les réunions de famille, on dit... c'est triste, il sera jamais heureux.
Ah bon ?
Je te jure.
Ok. Oui, bah oui.
C'est alors, triste, il sera jamais heureux.
Est-ce que tu peux... je crois que pour les gens qui connaissent pas, il faut expliquer un petit peu... Les familles traditionnelles de droite catho, sans pour autant entrer dans le cliché, si tu veux.
Non, mais en fait, les clichés sont plus ou moins avérés, tu vois.
Est-ce que t'as vu La vie est un long fleuve tranquille, forcément ?
Non, je l'ai pas vu.
Non !
Non, je te jure, je l'ai pas vu.
Ok. Et bah, c'est
j'allais voir ce soir.
Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce réal qui s'appelle Étienne Châtillier, tu sais, les enfants sont échangés en fait à la naissance entre
ah, ça me dit un truc
dans
ah
une ouais. famille
hyper catho et l'autre
catho et l'autre bah plus popu, quoi. Une famille du nord popu comme ouais. comme on les voit souvent à la télé et en fait ce film est plein de clichés, mais c'est aussi enfin les clichés viennent pas de nulle part quoi. Comment ça se passe toi qui as été élevé dans cette bon, je sais même pas en fait Ouais. Toi qui arrives, t'es un gamin qui vient du Nord catholique. Qu'est-ce que ça a fait exploser chez toi en termes de préjugés?
Non, mais enfin tout. En fait, déjà, c'est le premier réflexe, c'est l'inconfort. Je n'étais pas très à l'aise. Je parlais peu. J'étais en observation. C'était un stage d'observation, tu vois. Le début, c'était ça. Je regarde, je fais ah d'accord, ok. Donc là, ils s'embrassent, ok. Donc, qui fait la cuisine, du coup? Tu vois, vraiment, c'est ces questions-là, je te jure.
Oui, bien sûr.
Des questions fondamentales, en ouais. fait. Parce que moi, il n'y avait aucune question, tu vois. Mon père, jamais mis les mains au fourneau. Éventuellement un barbecue, le dimanche.
Ouais, parce que bon, c'est un truc voilà. de bonhomme.
Ah, il y a du charbon.
Faire griller la viande.
Voilà.
La bonne viande de bonhomme.
Et donc, je regarde, etc. Et puis, ensuite, c'est... Et alors, en fait, il y a aussi un truc. C'est que... Je sais pas s'ils se sont rendus compte, en fait, du tel gap qu'il y avait entre nous, mais vraisemblablement pas, puisque le 4 juillet, qui est la fête nationale aux États-Unis, eux avaient l'habitude, Mike et Andy, d'aller dans un petit truc, genre un peu comme Princeton, mais sur la côte ouest, un petit village, et c'était vraiment le 4 juillet, mais version Gay Pride. Et eux adoraient se mettre en drague. Enfin, en tout cas, Mike le faisait beaucoup. Et alors là, je peux te dire, j'étais... Il n'y avait rien qui allait, je te jure, dans ma tête, c'était... Et en fait, comme j'ai commencé très très intense, après tout le reste m'a un peu moins choqué. Mais
comment tu le vis, ce moment-là ?
Un petit peu de what the fuck, mais d'un autre côté, j'étais... Il s'était tellement rien passé dans ma vie pendant... depuis mon existence, que j'étais en mode genre, waouh, trop bizarre. En fait, chaque journée était une nouvelle découverte. Donc, il y avait vraiment ce côté voyage initiatique, tu vois. Je découvrais certains trucs et je fais, ah d'accord, donc ça existe dans le monde, je savais pas.
Tu leur posais des questions ?
Non, jamais.
Ah oui, tu faisais pas preuve de ton étonnement ?
Non, je leur posais pas nécessairement de questions.
Mais pourquoi ?
Parce que je sais pas si mon niveau d'anglais, en fait, aurait permis de le faire avec suffisamment de tact à l'époque. Parce que j'étais quand même là pour apprendre l'anglais, tu vois, donc... Et puis aussi parce que c'était un peu tabou, tu vois. J'aurais pas osé dire. Puis même, tu poses quoi ? Tu dis quoi ? Bah pourquoi ? Ouais, je sais pas, genre c'est super bizarre. J'aurais pas posé de questions. Mais ensuite, j'en ai beaucoup plus parlé parce que du coup, ensuite, je switch de famille. J'arrive dans une famille, j'ai envie de dire plus tradie, mais là où, pour le coup, donc, il y a un maman, une papa. Remarque, ça représente assez le schéma parce que pour le coup, la femme était hyper, hyper power girl. C'est la numéro 3 chez Photoshop.
Ok.
Donc,
Adobe.
Ouais.
Adobe.
Super stylé. Ouais. Et le papa qui est d'origine chinoise, donc qui a quand même cette dimension biculturelle qui est quand même intéressant. Donc, d'autres apprentissages par rapport à ça. Mais ensuite, du coup, je vais au Bahut, etc. Et je rencontre un mec. Qui est super efféminé, mais super sympa. et en fait, qui s'appelle Ted, qui aujourd'hui se fait appeler Ted pour d'autres raisons, parce qu'il est birman, etc., donc super compliqué. Et lui me fait son coming out par Skype un soir. C'était mon seul copain, tu vois. Il me fait son coming out par Skype au bout de 2 mois. Et il me dit, j'espère que ça va aller, etc. Puis d'ailleurs, il n'osait pas trop le faire, donc du coup, il shut down la caméra, et puis il me dit, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire un truc, j'arrive pas à te le dire, etc. Et moi, mon premier réflexe, là, j'étais un peu déconcerté le premier soir, en mode genre, putain, j'espère vraiment qu'il va pas me dire qu'il est amoureux de moi, parce que sinon, ça va juste... Je crois que c'était pas trop par rapport au fait qu'il soit gay, tu vois, mais juste, je me dis, putain, si... Enfin, c'est pareil si pour une fille ou un mec, tu vois, dans un... Si une fille dit, bah non, t'es mon meilleur pote, donc va pas commencer à me dire que t'es amoureux de moi, parce que sinon, c'est un peu fucked up notre relation. Et en fait, je me souviens juste le retour au bahut le lendemain matin, où je le check, enfin, normal. Et ensuite, on a commencé progressivement à en parler. Et aujourd'hui, c'est toujours un de mes meilleurs copains. Et du coup, ça fait 7 ans qu'il m'a fait son coming out. Donc, je suis allé le revoir l'année dernière à Los Angeles. Maintenant, il habite là-bas. Et il est différent, tu vois, il est changé. Parce que il s'accepte de plus en plus. Et donc, du coup, aujourd'hui, on parle même de cul. Chose que je n'aurais jamais cru faire dans ma vie. Et je parle de cul hyper librement avec lui. Et il me parle de ses expériences avec des mecs. Et du coup, moi, je sais rien de tout ça. Parce que bah, j'ai très peu de copains qui m'avaient expliqué ce genre de trucs. Et puis, enfin, même, on n'en parle pas trop dans la presse française ou dans ce genre de choses. Donc, ouais.
Il faut que tu écoutes le Boys Club. On a eu quelques invités qui rentrent dans les détails.
Ok. Non, mais tu vois, c'est des trucs à la con.
En termes de vie sexuelle pour les gays.
Mais franchement, il m'a appris plein de trucs. Et ouais, non, du coup, c'était extraordinaire. Ce voyage, vraiment, ça a été. Et même encore aujourd'hui, tu vois, j'en tire des apprentissages parce que de temps en temps, j'y retourne. Et en fait, c'est en construisant aussi une relation avec les gens là-bas, en grandissant avec eux, en vieillissant avec eux parfois, en plus de ça, tu peux aller repiquer sur des trucs. Ah bah là, dans notre adolescence, on a fait ça. Et du coup, je le fais à la fois avec des copains du Nord, à la fois avec des copains de là-bas, et puis aussi peut-être un peu à Montréal. Et Montréal, c'est encore un autre aspect, parce que c'est francophone, mais à la fois, c'est très woke. C'est pas une insulte hein, pour moi, woke, oui. Je dis juste parce que... On m'insulte de woke. Enfin, les gens pensent me...
Oui, pensent t'insulter.
Pensent m'insulter en me disant woke. Non. Mais ouais, c'est plus...
Bah justement, j'allais revenir là-dessus par rapport à la différence que tu faisais entre aller se castagner à la sortie d'une boîte à Lille et aller se castagner à la sortie d'une boîte à Montréal. Donc j'imagine que t'avais encore ce truc de vouloir aller te taper alors que t'avais genre 19-20 ans,
ouais,
c'est ça,
exact.
Il y a quelques années. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait d'avoir ce regard des gens?
Bah en fait, je vais te dire un truc qui est un peu triste, que j'ai super mal vécu, mais d'un autre côté qui était hyper formateur, c'est que vers 20 ans, ouais c'est ça, j'étais au milieu de mes années à HEC Montréal, je me suis fait cancel par une partie de mes potes qui étaient pas mes potes français, mes potes avec une vraie culture française, pas du tout cancel. Enfin, en mode genre, tu fais chier à te battre et tout, mais ça va, tu vois. Et à certains moments, c'est un peu... Je le dis là, comme ça, au moins, ce sera quelque part sur Internet. Et un jour, je pourrai le ressortir si jamais j'ai envie de développer plus. Mais à un moment, je me suis fait arrêter par les flics parce que c'était allé trop loin, etc. Et bref, du coup, là, c'était un peu un réveil, etc. Et pour certains, je l'ai dit à personne, mais ça a fini par se savoir. Et pour certains de mes copains qui étaient plus ancrés dans cette culture québécoise, etc., c'était signe de « ok, c'est terminé, on l'invite plus aux soirées », presque il est dangereux, tu vois. Parce que ça arrivait jusque-là, et c'était une forme un peu symbolique de dire « ok, c'est pas juste un mec un peu vénère en soirée, à un certain moment, je me suis vraiment battu et c'est allé loin, et du coup, bah, il y a eu ces problèmes-là. Et du coup, je me suis fait cancel, mais littéralement au sens propre du terme, c'est-à-dire bloqué de partout, plus invité aux soirées, sans aucune forme de justification. »
Ah, ils sont pas venus te dire...
Sans forme de procès. Deux porte-parole copains du groupe de potes
qui ont fait une intervention.
Qui sont venus me voir et qui m'ont dit, il faut qu'on te parle. Mais sinon, littéralement, je me suis fait cancel pour... Parce que j'étais... au contraire, tu vois, même, je pense, toutes mes potes filles et tout, elles me trouvent hyper... Je suis plutôt du genre à recadrer mes potes en boîte, etc. S'il y a un comportement pas cool par rapport aux filles, etc. Par contre, par rapport à la violence, j'ai été vraiment... on m'a dit, non, c'est terminé. on veut pas ce comportement nocif, c'est toxique, c'est pas bien, etc.
Mais en même temps, tu le comprends. Non, enfin, moi, le premier, j'aurais pas envie de me retrouver avec un pote qui se bat sans arrêt et qui se retrouve dans des histoires à la con. Et
on... Je le comprends, mais tu vois, aussi, c'est biaisé parce que je l'ai vécu. Mais putain, le sentiment d'exclusion, de non-compréhension. En fait, même pas. Beaucoup, et puis beaucoup de mes copains ne connaissaient pas les problèmes que je traversais actuellement, tu vois. Il y avait aussi énormément de violence en moi parce que bah, les gens ne connaissaient pas nécessairement, ne s'intéressaient pas en fait à pourquoi c'est arrivé. Et aujourd'hui encore, et peut-être qu'on ne va peut-être pas être d'accord là-dessus, mais encore moi aujourd'hui dans mes podcasts, je me bats constamment. Alors bon, pas récemment parce qu'il y a cette affaire du Hamel Mion qui est un peu... Enfin, trop compliqué, histoire de pédophilie affreuse, et puis en plus de ça, avéré sur bien des aspects. Mais la cancel culture, moi, je dois me battre contre ça, en fait, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un procès, je pense qu'il faut qu'on entende les deux parties, et qu'on peut pas simplement... Enfin, moi, j'ai un problème avec le... Ce côté de divulgation, tu vois, sur...
Ok, mais là on parle pas sur les réseaux sociaux, on parle de ton petit groupe à toi.
Ouais.
Ce qui m'intéresse en fait, c'est de me dire, ok, t'es en train de dire que les gens savaient pas ce que tu vivais.
Ouais.
Est-ce que tu leur as dit, bah, en fait, je vais vous expliquer pourquoi.
Et en fait, peu, mais j'estime que. Pour beaucoup, c'était des très bons potes, tu vois, des très bons amis. Il y avait un peu, il y avait pas ce côté écoute. Et du coup, c'est quelque chose que je valorise beaucoup trois ans après, dans mes relations aujourd'hui, c'est de me dire, bah, en fait, il faut aussi qu'il y ait une forme d'écoute, une bienveillance en fait générale, de prendre soin les uns des autres et pas simplement un effet de groupe qui, à un moment, bon, on va enlever un pion d'un échiquier. C'est pas très grave.
Mais ce que je veux dire aussi, c'est que t'as pas fait non plus, toi, cette démarche. Je dis pas que c'est de ta faute, hein, tu vois, mais c'est juste... je me rends compte que peut-être l'un des trucs qui aurait pu permettre d'inverser ça, c'est de faire preuve à un moment donné de vulnérabilité, de venir dire
«
Écoutez les gars, je suis désolé, je déconne, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. » Et je crois qu'à ce moment-là, ils auraient été prêts à t'écouter.
C'est drôle parce que...
Ça se fait dans les deux sens, quoi, tu vois.
Tu vois, genre justement, donc, du coup, il y a cette période un peu, période un peu dark, etc. à ce moment-là. Et puis ensuite, mon premier moyen de retourner à cheval et d'être dans une dynamique hyper positive, hyper entreprenante, etc., ça a été de faire des vidéos là-dessus. Et du coup, j'ai fait des vidéos sur YouTube, une qui s'appelle « Ce que j'ai appris l'année de mes 20 ans », machin, etc. Et en fait, ça a été de faire preuve de vulnérabilité. Et vraiment, il y a trois vidéos, dont une qui a été supprimée parce que j'assume plus vraiment mon état de vulnérabilité, parce que vraiment, je le trouve presque dérangeant, où je parle à cœur ouvert et qui ont eu un succès plus important que mes autres vidéos aussi, parce que je parle directement à mon audience et je leur dis vraiment comme si c'était des petits frères ou des petites sœurs, ou alors des gens de mon âge. Voilà, moi, ce que j'ai appris. Voilà, là, ça m'a terrassé. Et j'en parle, en fait. Je cite pas, j'explique pas, mais je dis, j'ai été déçu, j'ai appris plein de choses, j'ai merdé.
Est-ce que finalement, c'était pas une vidéo que t'aurais dû envoyer d'abord, enfin, que t'aurais pu faire à tes potes et que tu aurais pu envoyer sur leur groupe?
Mais tu vois, j'ai considéré que c'était trop tard à ce moment-là. Et que c'était pas grave. Que des gens, j'allais en rencontrer plein. Après j'en ai rencontré donc des gens absolument extraordinaires, mais du coup je me suis dit je vais reconstruire quelque chose de neuf, un peu, tu vois, comme peut-être c'est lâche, hein, peut-être qu'il aurait fallu essayer de reconstruire un truc, etc., mais je me dis
y a pas de jugement, en fait. Non. Juste, c'est intéressant parce que je pense aux gens, peut-être, enfin aux auditeurs, aux auditrices qui sont dans ton cas. Et en fait, je pense que c'est l'un des trucs aussi piliers de la masculinité, c'est-à-dire que c'est compliqué de s'ouvrir. Et en fait, c'est intéressant que tu le fasses auprès de tas de gens inconnus, si tu veux, et que ce soit plus simple pour toi de le faire auprès de tas de gens inconnus, alors qu'en fait, peut-être que cette vidéo, tu aurais pu la tourner pour tes potes.
Mais je l'ai tournée, en fait, pour mes potes. C'est ça qui est drôle. C'est que je l'ai tournée pour mes potes en me disant, putain, j'espère qu'ils vont tomber dessus.
Plutôt que de leur dire, en fait, c'est pour vous.
Ouais. Mais
c'est trop marrant, ce truc dérivé, quoi, tu vois.
Mais je te dis, c'est une forme de... Moi, j'ai toujours... C'est une forme de pudeur où j'ai toujours fait passer mes messages, mes émotions, mes coups de gueule, mes peines, d'abord par quelque chose de créatif-ish. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout créatif, c'est juste un mec qui se filme dans sa chambre
par rapport à ça. C'est hyper sensible.
Ouais, mais du coup... Oui, mais c'est plus un moyen d'expression un peu en mode genre, je le balance en loose day. Il se trouve que là, littéralement, il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont été du coup au courant de ma situation actuellement. Mais au fond, désolé pour l'audience, tu vois, mais je m'en fous. Moi, j'avais vraiment envie que ça touche 5 personnes en particulier. Et aujourd'hui, je sais toujours pas si...
Tu leur as même pas demandé, 3 ans plus tard.
Parce que j'ai un peu coupé les ponts avec ces personnes-là. Et quand je les recroise, y a une forme d'hypocrisie en mode genre, vas-y, on n'en parle pas. Ouais. D'ailleurs, s'ils écoutent ce podcast, t'imagines ? Ouais.
Et c'est ouf parce que je me dis, c'est d'autant plus dur, je pense, pour toi que tu disais que ta colère venait du fait de te faire humilier, tu vois. Ouais. Et que, en fait, leur réponse à ça, c'est de t'humilier encore plus. Et en fait, je pense qu'ils ne veulent pas t'humilier à ce moment-là. Ils veulent juste te dire, en fait, t'es relou à être vénère comme ça. En fait, on ne veut plus passer de temps avec toi. Et donc, ils t'humilient encore plus. Et donc, ils font juste qu'alimenter ce cercle vicieux nul, ouais, quoi.
C'est clair. Et du coup...
Tu l'as vu, ce TED de Brené Brown ?
J'ai peut-être pas vu le TED de Brené Brown. Mais
sur la vulnérabilité.
J'ai vu son Netflix.
Elle a tout un truc là-dessus, mais il faut regarder l'origine de tout ça, quoi, tu vois, où elle raconte son TED qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité. Où en fait elle raconte que c'est en décidant de te mettre à poil toi, tu vois, que tu finis par déclencher des trucs chez les autres.
Mais à fond, à fond.
Et je vous mettrai dans les notes si vous, parce que je trouve vraiment que c'est un truc qu'il faudrait que le monde entier regarde.
C'est une ref. Tu me disais que t'avais réactivé Twitter, mais il y a ce tweet trop drôle et c'est genre une photo hyper utopique, etc. Et c'est genre, bon, ça peut être dérivé en plein de trucs, mais c'est marqué la quote, c'est marqué si tous les pères allaient en thérapie ou allaient voir un psy, etc.
Ouais.
Et je pense qu'en effet, c'est super important que les mecs, parce que vraiment, tu vois, je veux pas être, à la fois je suis un peu paradoxal, mais c'est vrai que les mecs, on peut être hyper toxiques entre nous, pour les autres, et... mais aussi parce qu'on a été des petits garçons à qui on a inculqué des mauvaises valeurs très tôt. Mais il y a encore temps de les changer. Ça, c'est le process.
C'est le chemin.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler ?
Je suis en train de réfléchir. Attends, je prends 10 secondes pour vraiment...
Vas-y.
Ok, oui, il y a peut-être un dernier aspect, je m'étais dit... il y a peut-être un dernier aspect, d'ailleurs, ça fait un peu ouverture, tu vois, le mec qui pense vraiment à la création de contenu. Mais il y a cet aspect aussi où je pense qu'on a aussi une responsabilité, tu vois, de modifier nos comportements quand ils ne sont pas bons, et deux, d'éduquer nos pères en tant que mec.
Nos darons, tu veux dire?
Ou nos alors, pères, ça peut être nos pères. Moi, j'essaye subtilement, moi, et là, à Noël, récemment, plus j'ai un exemple de ça, où mon père commence à tracher à table sur Bilal Hassani, tu vois. Genre gratos.
Facile.
Fastoche. Surtout pour un daron de droite, tu vois.
Tu devrais lui faire écouter le Boys Club avec Bilal. Juste qu'il se rende compte de l'humain qui est derrière.
Et en plus, ça, moi, je connais Bilal aussi, et du coup, c'est vraiment ce truc où je fais putain, mais ce mec est l'un des personnes les plus pures au monde. Et c'est horrible. Et alors du coup, c'est cool parce que tu vois, j'ai ma sœur, mon frère aussi à table et je suis en train de former une petite armée. J'ai démonté plein de trucs et typiquement, dans un dîner de famille, je dis à ma sœur, mon père commence à dire des trucs, ça n'allait pas sur la bonne direction. Il y avait aucune façon que cette discussion termine bien. Commence à dire des phrases un peu border et je fais pas non plus extrême mais border et du coup je fais sur l'homosexualité etc. Je fais ouais mais d'un autre côté tous les mecs qui font les jeux de la biscotte dans les vestiaires dans le nord peut-être qu'il y a peut-être un truc inavoué. Et là, ma mère, elle le regarde, elle fait Et je comprends que mon père sait ce que c'est. Je regarde ma sœur et ma sœur, elle fait c'est quoi déjà ce truc? J'ai un peu zappé, etc. Et du coup, j'explique ce que c'est, tu vois.
Tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui savent pas, le jeu de la biscotte?
De manière Peggy 18. c'est en gros, moi la version que j'ai, je never done, but c'est
c'est des copains.
C'est des mecs qui dans les vestiaires de sport se retournent. Il y a se retourne pas d'ailleurs. Il y a une biscotte au milieu. Le but, c'est d'éjaculer le plus vite possible. Et le dernier qui n'éjacule pas sur la biscotte bouffe la biscotte. Je vous jure, je connais des gens qui le pratiquent, enfin qui l'ont pratiqué ado, et qui aujourd'hui vont être un papa ou une maman sinon rien. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, mais est-ce que vous êtes vraiment posé la question une fois? Non, jamais, jamais, c'est dégueulasse. Blablabla. Mais ça aurait été super sain que vous vous la posiez, parce que ça vous aurait... Et alors, du coup, là, ça l'a mouché, en fait, parce que je commence à dire ce genre de choses, etc. Ma mère, qui découvre ce truc-là à table... En plus de ça, je parle pas du tout de sexualité avec mes parents, mais je balance ce truc de manière hyper crue, en mode genre, pff, pavé dans la mare. Et ma mère est hyper choquée, etc. Et ma mère, elle peut être middle, tu vois. Soit elle est hyper dans le progrès, etc., parce qu'elle a vécu à Montréal, parce que elle a plein d'amis... mes parents se disent gay-friendly parce qu'ils ont des amis... homo, tu vois.
Ouais.
Et
ouais, oui.
En anglais, ça passe toujours mieux.
C'est un chemin.
Et d'un autre côté, elle peut être super à droite en fonction des arguments, tu vois. Du coup, j'expose cet argument-là et mon père s'est retrouvé bien penaud à dire ouais, j'avoue. Non, mais tout ça pour dire, il faut éduquer nos pères et autant des. Moi, ça m'est arrivé, je te disais tout à l'heure, des copains en boîte qui n'ont pas les bons comportements, qui peuvent être un peu. Enfin, lourdeaux en mode. Pas physique ou quoi, mais juste qui fixe trop, qui mettent mal à l'aise. Et du coup, nous, c'est à nous. Moi, ça m'est déjà arrivé, en tant que mec, à 19 piges, d'appeler un copain et de faire « Non, hier soir, ça n'allait pas pour telle raison, et je compte sur toi pour bosser là-dessus, tu vois. » Et du coup, c'est ça. Je pense qu'on est une génération un peu plus saine, et celles d'après seront... Peut-être qu'on arrivera vers cette forme d'utopie, comme sur ce fameux tweet.
Est-ce que t'as la sensation d'avoir fait des trucs où tu te disais « Ok, en fait, c'est ça qu'on attend de moi en tant que mec. » Et en même temps, de les faire en te disant « Ça me va pas, c'est chaud. »
Je te dis, j'avais fait du golf, je t'ai expliqué ça, mais j'ai fait tous les sports aussi du monde, tu vois. Et vraiment, surtout du foot aussi, beaucoup. Mon père a essayé une fois tous les deux ans de me réinscrire à un truc de foot. Et à chaque fois, et quand il venait me voir jouer, en fait, il venait voir l'équipe jouer parce que vraiment j'étais sur le banc. Et sur le banc d'une équipe de foot où t'as ton père qui s'est déplacé, qui rentre de voyage, qui est en jet lag pour venir te voir jouer et que tu restes assis sur le banc, même quand t'as 7 ans ou 8 ans, tu te poses des vraies questions par rapport à c'est quoi ta place? Est-ce que t'es vraiment à ta place? Du coup, ouais, nécessairement, à certains moments, je me suis posé des questions. Tu vois, putain, allez, j'ai une autre anecdote à la con. Autre anecdote. En cinquième, une prof, j'écris avec un stylo turquoise, parce que j'adorais le turquoise, un stylo plume turquoise. J'écris toute une rédaction, etc. J'ai la meilleure note de la classe. Les notes sont rendues de manière plutôt croissante. Donc Béatrice, 1 sur 20, pas ouf. Puis j'ai la dernière note, et elle dit, bon, seul bémol, j'ai eu du mal à reconnaître que c'était toi, parce qu'il faut dire que l'écriture en bleu turquoise, c'est pas très masculin, hein. Enfin, un truc, peut-être je l'adoucis, mais peut-être un truc encore plus vénère que ça. Et j'étais en mode, mais fuck you, genre. Déjà en cinquième, et je me disais, mais quelle conne. Vraiment, ma disserte, c'est la meilleure de la classe, et elle arrive à mettre une critique sur la forme parce que j'ai une écriture un peu arrondie et j'ai écrit en bleu ciel. C'est ça l'histoire? Voilà. J'ai bien terminé là-dessus, quoi. Vraiment.
Ouais, c'est bien.
Écriture en turquoise.
C'est quoi ton modèle de mec positif?
J'en ai un en tête, mais vraiment ça va pas parler à grand monde. Mais du coup c'est pas grave parce que du coup ça invite les gens à découvrir. Un mec qui s'appelle Jack Kant, qui est CEO de Patreon aux US, mais aussi qui est qui joue dans un groupe de musique avec sa femme, qui s'appelle Pamplemousse, qui est super, qui est un peu du nouveau jazz, un peu revisité, etc. Et lui, pas parce qu'il a déjà parlé de masculinité, mais de manière générale, les ricains de la côte ouest, ils sont un peu 10 ans en avance sur nous. Mais c'est pas genre juste un stéréotype, tu vois. À certains moments, je glorifie pas Béa, cette culture, mais il y a quand même ce truc où ils ont accepté très tôt. Moi, quand j'étais aux US, tu vois, typiquement, il y avait des homos, mais c'était la moitié de la classe. La moitié de la classe était homo. Et a priori, c'était normal, puisque 50% de la population de San Francisco se revendique sous le drapeau LGBT, QIA+. Donc, a priori, c'est censé être normal. Et de manière générale, ouais, est-ce que mon modèle absolu, c'est les hommes, les femmes et ceux qui ne s'identifient pas dans aucun des genres de cet endroit-là, San Francisco. Parce qu'il y a une forme de... Enfin, on s'en fout, quoi. Ta sexualité, on s'en fout. Ton genre, on s'en fout. Et du coup, j'essaye aujourd'hui de l'adopter en me disant, bah, j'ai en face de moi un humain. Même l'âge, on s'en fout, tu vois. Aujourd'hui, on parle... Il y a une petite différence d'âge.
On a 20 piges, j'ai presque le double de toi, tu te rends compte?
Mais tu vois, on s'en fout. Et tu serais une femme, tu serais non-binaire, tu serais en drague, je m'en foutrais. J'essaierais de faire en sorte... mais c'est un combat. Enfin, c'est un combat ou un effort, on va dire, au quotidien. Mais à un moment, ça devient naturel et ça t'ouvre plein de trucs de ouf.
Merci.
Merci à toi.
De t'être confié et d'avoir raconté des trucs que tu n'avais jamais raconté ailleurs.
Ça fera 90€ pour la séance de psy. Vous prenez la vitale ou pas, Monsieur Fab Florent?
C'était cool.
Même ressenti. J'ai l'impression que vraiment je me suis une forme de vidé, tu vois, mais non, c'est trop cool. Merci à toi.
Merci à vous d'avoir écouté jusque-là. C'était trop bien.